Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 563 du podcast Jean Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour débriefer tout ce qui s'est passé en cette semaine de Noël en NFL. À mes côtés, Grégory Villeroy est là. Bonjour Grégory.
Grégory Villeroy, donc.
Grégory Villeroy, je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé
ouais, mais
tout
pourquoi
ça.
Pas, écoute.
Je suis ailleurs.
C'est la panacée les gars. Alors, bonjour Alain, bonjour à tous.
Alors, en fait, j'étais fixé sur le rameur derrière toi et dans ma tête, je préparais déjà une blague sur le rameur, donc j'ai complètement, tu vois, j'étais ailleurs, quoi. J'ai zappé
les. Et donc tu associes bon. Le rameur à Raoul. Il apprécie.
Je sais pas. comment ça va, Grégory Richard?
Ah, très bien, et toi?
Tu as bien réveillonné, parce que en fait, je préparais un truc du genre, il a bien réveillonné, mais il a déjà son rameur à côté de lui pour évacuer les excès des fêtes, etc.
Exactement. Bah, je l'ai utilisé dès le lendemain du réveillon, donc ça s'est plutôt pas mal passé. Donc, voilà. Faire attention à la bûche, hein, je le rappelle.
Dès le lendemain, moi je croyais que tu mangeais la bûche tout en faisant du rameur, tu vois.
J'y ai pensé, mais bon, il y a 2-3 contraintes logistiques après à prendre en compte, donc non, c'est pas terrible.
Le fameux rameur guillotine, hein, pour ceux qui ont regardé. Exactement. Le dernier fauteuil.
Exactement.
Des équipes AFC en grosse galère, une course au playoff par défaut plus que par vista, c'est le programme du jour. Grégory, on va commencer tout de suite avec les Dolphins qui recevaient les Packers et ça ne s'est pas très bien passé pour eux. 26 pour Green Bay, 20 pour Miami, 3 interceptions sur les 3 dernières tentatives offensives de Tua Tagovailoa, sur les 3 dernières offensives, les 3 dernières possessions. Tua Tagovailoa donc, et les Dolphins qui ont explosé en fin de match. Ils s'inclinent pour la 4e fois de suite dans un match qu'ils ont mené pendant 3 quarts-temps. Grégory, est-ce qu'on s'inquiète pour Tua Tagovailoa qui lance donc 3 interceptions pour finir ce match quand même?
Bah, on est obligé. On sait que c'est un peu. On sait que la philosophie offensive de Miami a été celle-là depuis le début de la saison régulière et qu'on va dire ils vivront et mourront par cette philosophie et ce besoin de faire lancer. De faire pratiquer, on va dire, un jeu très risqué à Tua Tagovailoa, qui jusque-là arrivait malgré tout, alors certes avec des receveurs qui étaient à même d'exploiter notamment les espaces intermédiaires, de limiter les erreurs, mais c'est vrai que là, malheureusement, ça fait un petit peu tâche, tu le disais dans une période où Miami a besoin de retrouver de la confiance, a besoin de s'appuyer sur des certitudes, affronter une équipe qui, il y a encore quelques semaines de ça, on en parlera tout à l'heure, était quand même, annoncé hors de la course des playoffs, donc c'était quand même un match dans le calendrier, on dira, dans leur programme, qui pouvait paraître largement prenable. Si on met ça par exemple en contradiction avec Buffalo ou les Chargers qu'ils ont croisés il n'y a pas si longtemps que ça lors de la saison régulière. Donc oui, forcément, faut être un petit peu inquiet. C'est malheureusement une tendance, je trouve, ces dernières années du côté de Miami, cette manie de se faire un petit peu peur, alors qu'on se disait que depuis le retour de Tagovailoa, justement. L'équipe avait l'air d'être sur un meilleur rythme, et ben là très clairement tout a l'air de retomber, que ce soit offensivement ou défensivement, donc c'est compliqué de pas mettre ça malheureusement au discrédit du quarterback floridien.
Après, il y a aussi ce truc de dire qu'il était quand même excellent en première mi-temps. Il a 229 yards en première mi-temps, 144 dévales à la pause. Donc, il n'est pas aux fraises sur tout le match. C'est ça qui est un peu étrange et en trompe-l'œil. Miami gagne beaucoup de yards, il domine. Parce que tu vois, si on est positif, on peut prendre l'angle de bon, bah, ils ont raté des grosses occasions et ils se plantent un peu en fin de match. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas non plus. Après, évidemment, il y a le fait qu'ils arrêtent plus de perdre, qu'il y a cette fin de match catastrophique. Le jeu au sol, quand même, mine de rien, aussi, on a souvent loué Mike McDaniel, etc. Là, bon, alors il y a une bonne moyenne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un gros jeu au sol du côté de Miami.
Non, il y a un bon début. Après, voilà, je pense qu'on a aussi vu, comme tu le disais, que Tagovailoa était capable de s'appuyer notamment sur ses valeurs sûres qui étaient Hill et notamment Waddle avec le premier touchdown de Miami, si je me trompe pas. Donc c'est vrai qu'après on est peut-être revenu sur du jeu un peu classique, on va dire, en tout cas sur une philosophie un peu plus classique, en se disant que peut-être contre la passe, on sait que Green Bay a quelques flottements, hein, sur la position notamment de cornerback, donc on s'est dit peut-être qu'on va essayer d'appuyer un petit peu là-dessus. Mais que voilà, en effet, ça s'est quand même pas mal effrité, notamment au retour des vestiaires. Donc voilà, comme tu dis, il y a un côté ombre, un côté lumière. C'est à l'image de la saison en règle générale, mais c'est sûr que tout n'est pas forcément négatif quand on ressort de cette rencontre. Mais il y a là encore une rechute significative sur l'ensemble du match et une rechute significative sur l'ensemble du mois passé.
Du côté de la défense, quand même, ça a plutôt bien fait le travail en limitant Green Bay à 301 yards. Le jeu au sol de Green Bay a été très très bien limité. Les Packers ont dû être agressifs en jouant 5 fois sur 4e tentative. Eux, pour le coup, on sentait vraiment qu'ils étaient en mode commando survie. Hein. Bon, la défense de Miami a pas trop à se reprocher quand même. Elle a été plutôt attaquée. C'est Green Bay qui fait le forcing, on va dire, pour aller arracher ce match. Et avec 26 points, c'est pas tant que ça dans la NFL actuelle.
Oui, c'est sûr. On a vu, en tout cas, je trouve, un meilleur visage de la défense de Miami que certaines sorties récentes. C'est vrai qu'on rappelle qu'il restait quand même sur une trentaine de points. Alors, à Buffalo, c'est pas infamant de prendre 32 points, mais on se rappelle, par exemple, à San Francisco, même s'il y a une bonne période Brock Purdy, ça coïncidait avec le premier match d'un quarterback rookie en face. Donc, c'est vrai qu'il y avait, voilà, on sentait que cette défense-là, était un petit peu sur courant alternatif ces dernières semaines. Là, globalement, ils ont été capables d'apporter de la pression. Hein. Il y a beaucoup de courses qui ont été nécessaires pour Aaron Rodgers pour tenter de faire avancer les chaînes. Ils ont globalement réussi à maîtriser le jeu au sol qui, dans le système Lafleur, est censé être le baromètre principal de cette équipe du Wisconsin. Donc voilà, c'est sûr que ça laisse clairement des regrets parce que il y a une défense qui, globalement, a pas démérité. Et là où l'attaque, par exemple, a semblé en panne d'imagination et d'inspiration en deuxième mi-temps, la défense a continué de faire le boulot au pire en pliant sans rompre.
Est-ce que du coup les Packers, qui restent vivants, ils sont à 7 victoires, 8 défaites, à égalité avec les Lions, un match derrière les Commanders et les Giants, est-ce que sur le jeu finalement on est si rassuré que ça? Parce que sans le désastre total de la fin de match de Miami, alors évidemment, hein, faut les intercepter, il faut voilà, mais ils se font ouvrir sur le début du match. On dirait que leurs défenseurs veulent pas plaquer, leur attaque est quand même pas toujours explosive. Est-ce qu'on est si rassuré que ça pour les Packers?
Rassuré, non, parce que, alors je sais pas par quel point tu veux commencer, c'est plutôt en attaque ou en défense. Là, pour le coup, c'est pareil, je veux dire, défensivement, au moins, cette équipe des Packers, je trouve qu'elle sera restée un minimum cohérente, pas dans tous les secteurs de jeu, on l'a dit il y a quelques secondes, mais au moins, d'un point de vue point, c'est une équipe qui prend pas le bouillon. Voilà, c'est globalement une équipe, il y a beaucoup de défaites, beaucoup trop de défaites en l'occurrence pour Green Bay, qui sont dans des matchs où l'attaque a globalement été éteinte. Et là, sur ce match-là, pendant longtemps, on a cru qu'on allait prendre cette trajectoire. Je sais pas si t'allais évoquer la stat, Alain, mais on a quand même Aaron Rodgers au poste de quarterback. Et c'est sûr que là, concrètement, se contenter d'un 2 sur 14 sur 3e tentative, quel qu'ait été le niveau de la défense de Miami en face, c'est sûr que c'est... Alors, j'allais dire, c'est quasiment miraculeux de réussir à s'en sortir, mais en tout cas, ça veut dire qu'en face, de l'autre côté du ballon, d'un point de vue défensif, on a clairement aussi permis de conserver un maximum de cartouches pour réussir après à faire la différence au retour des vestiaires, notamment sur field goal. Donc voilà. Défensivement, il y a des éléments qui tendent à rassurer, et on sait que, voilà, la défense, on va dire, dans la dernière ligne droite et dans les playoffs, si on se projette de manière un petit peu avancée, mais en tout cas, dans cette période de l'année, c'est toujours c'est toujours presque plus important que l'attaque. Green Bay le montre sur ce match-là, mais offensivement, je te rejoins, il y a des bonnes choses, notamment, enfin, on a vu encore de bons éclairs entre Rodgers et Watson, par exemple, mais c'est vrai que pour le reste, c'est quand même assez timide.
Watson, c'est clairement le rayon de soleil de leur deuxième partie de saison.
Mais voilà, mais il y a du bon et du moins bon aussi. On voit encore quelques petites erreurs ici et là. Enfin, voilà, des petits problèmes de communication, comme on avait pu en voir par exemple lors de la victoire face aux Rams. Mais c'est clairement en net progrès et voilà. Et ça a réussi à compenser en effet un jeu au sol qui, comme je le disais, a pas forcément été très transcendant. Les équipes spéciales aussi, si tu me permets, ont été intéressantes, notamment avec ce retour de Kishan Nixon. Qui rebooste un petit peu les Packers au moment où ils auraient pu douter. Je crois que ça a aussi un petit peu joué dans les coups de pied de réengagement des Dolphins à un moment donné dans le match. Donc voilà, pour répondre à ta question, non, on n'est pas rassuré, mais on sera de toute façon peu rassuré par les équipes NFC qui iront pour la plupart en wild card. Voilà, peut-être les Giants éventuellement qui montrent de bonnes choses malgré tout dans des grosses confrontations, mais le 7e par exemple, puisqu'on joue la 7e place. Il ne faudra pas s'attendre forcément à beaucoup d'assurance.
Bon, les Packers n'y sont pas encore. Hein. Ils jouent les Vikings et les Lions pour finir. Donc, c'est pas deux matchs qui sont gagnés pour eux. Les Titans 14, Texans 19. Pour les Titans, ça fait 5 défaites de suite. On parlait des 3 de suite pour Miami. Titans, ça fait 5. Houston a marqué 10 points dans le dernier carton pour l'emporter. Malik Willis a été intercepté sur ses deux dernières séries. Ryan Tannehill est blessé, on le rappelle, à la cheville. Ne rejouera pas de la saison régulière, probablement pas en playoff. 6 playoffs il y a, selon ESPN. Question simple et très directe, Grégory.
Ouais, vas-y.
Est-ce qu'ils sont cuits, ces Titans?
Ah bah là, en tout cas, ils m'ont pas l'air bien frais. Là, c'est sûr que on pouvait se dire, on en avait un petit peu parlé lors du fauteuil avec la victoire des Jaguars sur le terrain des New York Jets, que en effet, voilà, il y avait des dynamiques contraires, ça, on pouvait pas dire le contraire, et en effet,
confirmé.
Du côté de Tennessee, voilà, c'était pas l'extase, mais on se disait, avec la réception de Houston, il y a quand même moyen, éventuellement, d'au moins assurer le coup, et puis on voit un petit peu ce que ça donne lors des deux dernières semaines. Bah, comme l'année dernière, il me semble, du côté de Nashville, Houston qui vient créer l'upset, face à des Titans favoris sur le papier. Et bon, pour le coup, ça, malheureusement, on l'avait vu un petit peu plus venir parce que, bah, malheureusement, on a tendance aussi à se répéter du côté de Tennessee. C'est sûr que les blessures n'aident pas, mais des blessures, on a tendance à le répéter. Il y en a dans toutes les équipes, même si là, ça concerne le quarterback et notamment un garde, un centre titulaire, par exemple. Mais ça n'a pas empêché Derrick Henry de performer, par exemple. Enfin, ça lui a pas permis de marquer assez rapidement. Ça lui a pas permis... ça l'a pas empêché, pardon, de pouvoir engranger les yards au cours de cette rencontre et d'être la principale menace offensive. Mais on sort toujours au même problème de cette équipe de Tennessee. C'est une défense vaillante, un gros running back. Mais derrière, bah, si ça sourit pas et si par exemple, notamment Henry en vient à commettre des pertes de balles un petit peu fatales, et bah, au niveau du momentum, on n'est pas bien du côté de Tennessee. C'est clairement pas Malik Willis qui va relever tout ça.
Bah, Willis, il faut quand même le dire, il est assez apocalyptique à chaque fois qu'il joue. C'est-à-dire que ça fait 3 matchs où il est titulaire, 3 matchs où il ne passe pas les 100 yards. On parle même pas de passer les 200, les 300. Il passe même pas les 100 yards. Donc, c'est quasiment pas un quarterback, quoi, au bout d'un moment. 14 sur 20.
Alors, excuse-moi, là, je te coupe, mais pour le coup, c'est un quarterback rookie et on voit que de toute façon, sur des lancers, même au niveau des zones intermédiaires, on voit que le bras est quand même pas hyper sûr, c'est beaucoup sous-alimenté. Mais d'un point de vue play call, même, je me demande la pertinence justement de... Enfin, à quel moment t'essayes aussi de lui redonner confiance là-dedans? C'est-à-dire qu'on a vu des séquences, on était sur des 3e et... alors, je vais pas dire de bêtises, mais sur des 3e et 2, des 3e et 3, et t'as des lancers où en gros, on fait juste légèrement décrocher Hooper pour qu'il mette une toute petite passe comme ça, limite shovel. Enfin... Voilà, je veux dire, on a le droit aussi d'essayer de pousser un petit peu son quarterback et d'essayer de lui demander de prendre des risques un petit peu plus soutenus que vraiment des toutes petites passes. Genre, attention, Arthur Smith a ce même défaut à Atlanta, c'est-à-dire que, ok, ton quarterback peut être un petit peu rédhibitoire par rapport à ton jeu au sol, mais t'as le droit aussi d'essayer de le pousser un peu et de lui dire, bon, essaye de lancer le ballon, quoi, parce que sinon, à un moment donné,
sûr,
tu te heurtes à ces limites-là.
Bien sûr, mais après, il a quand même énormément de mal à le lancer correctement. Le ballon, il est à peine à 50% de passes complétées sur les 3 matchs qu'il joue. Il n'a pas lancé un touchdown. Enfin, tu joues avec un handicap. Hein.
Enfin, non, non, c'est
moment,
sûr.
C'est aussi simple que ça. Derrick Henry, il fait ce qu'il peut, il casse des plaquages dans tous les sens, il fait des machins. Mais une fois que tu limites un peu Henry et que tu le calmes un peu, parce qu'en fait, il a 126 yards, mais t'as une course de 48 hein, dans le lot, donc il est quand même plutôt bien contenu sur l'ensemble. Il fait un match normal, bah en fait Tennessee a plus d'attaque quoi, donc 14
mais
points.
Mais on avait le même scénario à l'aller, hein, parce qu'il me semble que le premier match de Willis cette année c'était à Houston. On avait eu un match absolument calamiteux où là en l'occurrence ça avait bien tourné pour Tennessee. Mais c'est vrai que malheureusement, alors je sais pas si c'est plus l'exemple de Malik Willis ou plus globalement d'une équipe qui en manque de confiance, mais je pense que je suis pas le seul à avoir eu ce ressenti là. Tennessee mène donc 14 à 10 à un moment donné en deuxième mi-temps. Oui. Et on a senti inexorablement Houston, parce que Houston, on va dire, se recolle petit à petit, revient à 14-13, etc. Mais Tennessee a souvent quand même des drives en menant au score. Et on sentait paradoxalement, alors que Tennessee est quand même censé être l'équipe qui doit être le plus motivée à l'heure actuelle, notamment pour se remettre dans le bon sens, on sentait que Tennessee pouvait jouer encore 15 drives et perdre 15 fois le ballon, en tout cas le rendre quasi systématiquement. Donc il y a vraiment un problème dans cet effectif-là, qui encore une fois, je pense, est plus global que le terrain. On rappelle que le general manager a quand même été viré il n'y a pas si longtemps que ça. Tu parlais de Ryan Tannehill, on en avait parlé en début de saison, mais c'était quand même un quarterback qui était en petite crise de confiance quand même, hein, qui avait vécu une fin d'année assez pénible, avec notamment un match de playoff absolument horrible contre Cincinnati. Donc voilà, malheureusement, tout ça est un petit peu la conséquence. Et même avec un Mike Vrabel qui assume ses idées depuis le début, qui a réussi à remettre la défense sur le droit chemin, on dira, après les problèmes de pass rush qu'on avait vu il y a quelques années de ça, bah malheureusement, au bout d'un moment, il y a trop de limites dans cet effectif-là. Pour reprendre le momentum, ça paraît beaucoup trop limité. Et en plus, quand t'as un Willis qui est clairement pas bon, qui a des linemen en cascade qui sont blessés, qui a pas vraiment de receveur numéro un, même si Treylon Burks est de retour, mais on l'a quasiment pas vu dans le domaine aérien. C'est une équipe qui, pour le coup, est pas si bien construite que ce qu'on aurait pu penser au départ.
Non, c'est sûr, et il y aura, on ne va pas y faire ça aujourd'hui, mais il y aura beaucoup de questions à se poser pendant l'intersaison, hein, mine de rien, du côté de Tennessee, parce que ça peut sentir la fin de cycle et l'équipe qui a raté sa fenêtre. Voilà, on en parlera plus tard. Un petit hommage quand même. Brandin Cooks marque le touchdown de la gang, pardon, fin d'une série de 9 défaites pour les Texans. Brandin Cooks, quand même, résilience, quoi. Il est toujours là, après toutes les épreuves, après avoir demandé un échange, après, voilà. Avec ce système à deux quarterbacks un peu bricolés depuis 2 semaines, avec Davis Mills, là, qui a 17 sur 28, et puis Jeff Driscoll qui en lance 4 et qui court 2 fois. Bon, c'est full bricolage, hein, là, Greg, mais ça passe. Face à ça.
Oui, clairement. Bah après, ils savent que leur quarterback titulaire l'année prochaine ne fait pas partie des joueurs que tu as cités. Ils n'ont pas leur running back titulaire qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Tu le disais, même Brandin Cooks, je pense que dès qu'il peut partir, il partira. Donc là, le but du jeu, je pense que c'est d'essayer de trouver un peu de fun, notamment offensivement, hein, parce qu'on l'a dit tout au long de la saison, cette défense de Houston, elle le démontre sur ce match-là. C'est clairement pas là où est le problème. On voit que il y a des joueurs qui sont capables. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de provoquer des pertes de balles. Voilà, là où le bas blesse, c'est principalement offensivement. Et l'objectif principal, je pense, c'est de réussir à trouver des joueurs qui peuvent éventuellement se faire leur place, essayer de se battre pour un peu de temps de jeu, notamment la saison prochaine. On voit qu'ils testent par exemple Amari Rodgers, qui réussit à capter une passe longue distance. Et voilà, après pour le reste, un Brevin Jordan par exemple qui essaye de se battre notamment, et qui est auteur d'un bloc important sur le touchdown décisif de Cooks. Donc voilà, tu l'as dit, on va dire kudos, parce qu'en effet on terminera avec un meilleur bilan et avec au moins 2 victoires cette saison du côté de Houston. Là aussi, je pense que ce sera important de se pencher sur les principales choses à faire pendant cette intersaison, et je doute que ça passera par le renouvellement de Lovie Smith.
Pour les Titans, juste un mot, hein, ils jouent les Cowboys et les Jaguars pour terminer la saison. Évidemment, ça sent pas très bon pour eux, sachant qu'ils ont été repassés par les Jaguars ils sont à l'égalité, mais ils ont pas le tiebreaker. Donc ça sera très très compliqué. Les Patriots pour terminer avec les Bengals, Patriots 18, Bengals 22. Et les Patriots sont donc derrière les Dolphins et les Titans au classement de l'AFC dans la course pour les playoffs. Il y a les Jets, les Patriots, j'ai un trou sur les Steelers et il m'en manque un, qui sont tous à égalité. Je vous referai un bilan.
Attends, t'as dit les Jets?
Voilà, donc, alors, voilà, excusez-moi. Sixième, les Chargers. Septième, les Dolphins. Donc ça, c'est en position de se qualifier. Mm-hmm. Derrière, on a les Patriots, les Jets, les Titans et les Steelers qui sont à 7 victoires et 8 défaites. Voilà, j'avais tout le monde. Donc c'est la course et les Patriots sont là avec un drôle de match puisque la bonne nouvelle hein, justement pour Miami et Tennessee, c'est qu'ils ne se sont pas fait rattraper par New England. Les Patriots étaient menés 22-0 à la pause. Ils étaient complètement dominés. C'était un massacre. Joe Burrow complète ses 11 premières passes. Il y a 303 yards pour les Bengals contre 70 pour les Patriots à la pause, 22-0. Bon, et pourtant, ils se réveillent en fin de match. Ils reviennent à 4 points. Ils ont même deux fois le ballon pour aller gagner. Et ça donne fumble et échec sur quatrième tentative. Greg, est-ce que, et je te le dis d'avance, c'est un peu ce que je pense, c'est quand même pas un score un peu en trompe-l'œil?
Ah bah là, carrément. Là, franchement, pour le coup, je pense que t'as globalement bien résumé. On s'est demandé pendant bien bien longtemps, un petit peu sur le modèle de Tennessee, si Cincinnati voulait gagner ce match. Parce que quand on arrive à prendre les devants d'une manière aussi autoritaire, qu'on arrive à éteindre le secteur offensif, alors certains diront que c'est pas les premiers à éteindre le secteur offensif des Pats, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Mais en tout cas, à globalement vraiment les annihiler, notamment sur le jeu au sol. Alors oui, il y a énormément. Là, on parlait d'obtenir du momentum. Là, il y a énormément de choses qui ont permis, on va dire, à New England de reprendre un peu du poil de la bête, hein, avec plus ou moins de réussite. Hein, une passe incomplète généreusement offerte, un ballon qui retombe dans les mains de Jacoby Myers. Bon, c'était pas toujours très académique du côté New England, mais en tout cas, ça a permis de recoller petit à petit. Mais j'ai presque envie de dire, heureusement pour cette équipe de Cincinnati, que défensivement on a réussi à faire un peu le dos rond et à provoquer notamment ces pertes de balles, parce que très franchement ça aurait fait tâche, même si Cincinnati est dans une très bonne période. Je sais pas si ils sont à combien, 7 victoires de suite?
Oui,
ils étaient à 4-4, il me semble initialement.
J'ai plus le compte exact, mais oui, ils sont à beaucoup de victoires de suite.
Donc voilà, ça aurait été dommage en tout cas de laisser cette victoire en cours de route. Rien de dommageable en soi, même s'il se serait retrouvé avec le même bilan par exemple que les Ravens. Mais voilà, c'est bien en tout cas, ça confirme que même quand tous les voyants ne sont pas au vert, et là en l'occurrence ce qui est un petit peu paradoxal pour eux, c'est que c'est presque leurs deux playmakers principaux qui ont failli leur tirer une balle dans le pied sur ce match-là. Mais voilà, au moins en attaque et en défense, les Bengals sont concernés, enfin voilà, sont impliqués, et ça démontre que ce sera une équipe à surveiller dans cette dernière ligne droite de la saison régulière, voire pourquoi pas en play-off.
C'est pour ça que moi je te disais que je suis à la fois, je trouve que le score est un trompe-l'œil et que je suis pas trop inquiet, c'est que bon bah ça arrive quoi, t'es une équipe très très forte qui lève un peu le pied. Alors tu as trop levé le pied, je pense que c'est ce que ne font plus des équipes comme les Chiefs par exemple maintenant, qui sont un peu rodées sur ce genre de truc là. Où là voilà, c'est une équipe qui est encore jeune mine de rien malgré le Super Bowl de l'an dernier. Ils ont levé le pied un peu trop fort.
Après ça dépend ce qu'on appelle. Vas-y, je te laisse terminer.
Non, j'allais dire, tu l'as dit en plus, c'est Joe Burrow et Ja'Marr Chase qui font des erreurs et qui perdent des ballons, donc c'est quand même c'est pas hyper caractéristique ce genre de truc là. Ils se laissent aller, ils sont trop faciles à ce moment là. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour eux sur ce match-là. Ils maintiennent en plus la victoire à la fin. Bon, ça aurait pu être quand même beaucoup plus propre que ça. Mais pour moi, c'est une anecdote en fait dans leur saison.
Bah, c'est surtout qu'ils lèvent le pied sans lever le pied. Alors, en fait, si tu veux, je n'ai pas envie d'exagérer le contexte, parce qu'on sait qu'encore une fois, en NFL, tout peut aller très vite. Et une équipe, encore plus quand elle joue à domicile dans ce genre de scénario, avec la défense comme celle des Patriots qui arrive à mettre en place Belichick, on sait que c'est une équipe qui peut éventuellement reprendre confiance très rapidement et semer le doute chez l'adversaire. Mais je trouve que à l'inverse, j'essaierai quand même de rester un petit peu sur mes gardes par rapport à ça, parce que ils ont levé le pied, oui et non. Oui, ils ont été un petit peu trop tranquilles, tu l'as dit. Mais tu vois, là, c'est plus aussi du côté du coaching que je me tourne, et pas juste pour faire la blague par rapport à Zach Taylor, mais voilà, on est à 52 passes tentées, 24 courses. Je pense que ça aurait peut-être été intelligent, notamment après le pick six de Joe Burrow, peut-être de jouer avec un peu plus de.
C'est vrai que du côté coaching, t'aurais pu calmer le jeu et mettre le pied sur le ballon. Comme
voilà.
On dit,
après, je l'ai dit, il y a des scénarios un peu US que voilà, j'ai cité notamment ce drive avec les actions un petit peu ou controversées ou voilà un petit peu miraculeuses. Mais c'est vrai que même le catch en bout de ligne de touche de Kendrick Bourne, ça se joue à très peu. Voilà, il y a énormément d'événements et d'éléments qui font que du côté des Pats, ça a permis justement de remettre un petit coup sur la tête de la défense de Cincinnati et de créer ce doute-là. Mais je pense que ce doute aurait pu être un petit peu estompé par un secteur offensif. Alors, on sait que Zach Taylor, encore une fois, c'est l'école Sean McVay, etc. On va se dire, bon, voilà, Joe Burrow, c'est un peu comme Justin Herbert du côté des Chargers. On sait à qui on a affaire et on sait que voilà, on peut y aller avec plein de culot. Mais je pense que parfois, faut aussi savoir raison garder et mettre un petit peu, justement, un peu plus le pied sur le frein, comme tu disais tout à l'heure.
Après, du côté des Patriots, c'est quand même l'autre miroir. C'est-à-dire que moi, cette fin de match, elle me fera pas croire qu'ils sont bons. C'est-à-dire que la défense. Alors, la défense fait son boulot, comme elle fait tout le temps son boulot. Mine de rien, c'est elle qui les remet dans le match, parce que les premiers points, c'est une interception de Joe Burrow retournée pour un touchdown, parce que sur leurs 18 points, il y en a 6 pour la défense. Je dis 6 parce que l'extra point est manqué, je crois, à ce moment-là. Donc, d'ailleurs, ils ont manqué 2 extra points et une conversion à 2 points. Donc, en fait, ils étaient à égalité s'il est rentré tout, hein, les transformations.
Je vais pas dire de bêtises, mais oui, je crois que c'est ça. Ouais. Dans Folk, du coup, il rate.
Non, pardon, je te dis.
Il rate les 2 extra points. Oui, il rate. Voilà. C'est ça. Non, il rate 2 extra points et du coup, bah, ils sont obligés de tenter le. Non, c'est ce que t'as dit. Hein. Ils sont obligés de tenter les conversions. Mais ils auraient pas été à égalité. Ils seraient revenus au pire à 2 points.
Alors, ils ont fait dans un autre ordre. Ils ont raté l'extra point. Ensuite, ils ont tenté une conversion à 2 points sur le deuxième touchdown qu'ils ont raté. Et ils ont fait un extra point sur le dernier touchdown. Donc, je suppose que l'idée, c'était de revenir à 3 points pour espérer, voilà. Et l'extra point est aussi raté.
D'accord, ok.
Donc, ils ont tout raté sur les conversions, en fait. Ils ont marqué des... C'est pour ça le 18, c'est 3 touchdowns à 6 points. Bref, c'est un détail, mais oui, voilà, moi, ce que je te disais, c'est que cette fin de match, elle va pas me faire croire qu'ils sont bons, au sens où ils sont quand même cataclysmiques pendant le début du match. Ils se font ouvrir de partout, l'attaque fait rien. Enfin, on voit exactement les Patriots. Moi, je m'en rappelle, devant ma télé, me dire « Les Patriots sont pas bons cette année, et vraiment... » Ça faisait, je les ai jamais vus aussi mauvais. Tu vois, depuis 15 ans, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe des Patriots aussi poussive, aussi peu enthousiasmante. Et là, c'est le cas, quoi. Mac Jones, alors il soigne la fiche de stats en fin de match, mais en fait, le plus dur, c'est alors attention, c'est pas Mac Jones. Je dis Mac Jones soigne la stat de fit en fin de match, mais je pense que justement. Sa fin de match à lui montre qu'il y a toujours des trucs à faire avec lui et que le problème se situe plus dans les choix de jeu et dans la gestion offensive, etc. C'est juste que à partir du moment où le jeu au sol est stoppé, ils sont en grande galère parce qu'ils vivent là-dessus. Donc là, t'as un Ramondre Stevenson qui a 2,3 yards par course, donc ça te pose le truc. Mais je suis limite presque plus rassuré par Mac Jones en me disant qu'il fait briller un Kendrick Bourne, un Jacoby Meyers, il trouve des choses. Donc tu vois, je suis presque... C'est presque Mac Jones, en fait, le point positif pour moi dans ce marasme-là. Mais il faut changer le coordinateur autour, il faut changer rajouter de la matière avec les receveurs autour, rajouter un peu de tout autour. Le problème, c'est que structurellement, bah, on sait que les Patriots, ils vont pas fonctionner sur des coups d'éclat, que ce soit au niveau du recrutement du coach ou même des recrutements sportifs, puisqu'on sait que le manager Bill Belichick... est-ce qu'il va réussir à drafter des receveurs de qualité ou est-ce qu'il va faire monter des échanges ou quelque chose pour des receveurs de qualité? Je ne sais pas. Mais du coup, encore une fois, pour finir sur mon point, Mac Jones, c'est en fait plutôt le truc le plus rassurant que j'ai vu dimanche. Ou le samedi, je ne sais plus quand il jouait cela. Samedi.
Oui, samedi, ouais. Mais oui, bah, écoute, j'aurais pas énormément de choses à rajouter, mais c'est vrai que moi, jusqu'au bout, je ne comprendrais pas pourquoi il n'y a pas des ajustements qui sont faits en attaque de la part de Belichick. On sait qu'il y a des rumeurs autour d'un possible retour de Bill O'Brien. Donc apparemment, quand on n'est ni Josh McDaniels ni Bill O'Brien, on ne peut pas appeler les jeux dans l'attaque de Foxborough. Donc c'est assez prodigieux, quoi.
C'est pour ça que je te disais que je suis pas sûr qu'il y ait une révolution autour, quoi.
Donc ouais, moi c'est ça qui me perturbe un peu quand tu touches le fond à ce point-là, parce que malheureusement c'est pas la première fois qu'on voit un tel marasme offensif du côté New England. D'un point de vue de l'attaque, enfin voilà, je comprends pas comment Belichick rectifie pas ça et ça va laisser encore plus de regrets encore une fois quand on est fan de l'équipe, parce qu'on va se dire qu'on va louper la marge des playoffs peut-être pour une ou deux victoires. Alors faut avoir, parce que du coup il y a un New England Miami qui va être assez palpitant la semaine prochaine.
C'est ça. Enfin, il leur reste les Bills et les Dolphins, hein, donc
oui, il reste les Bills et les Dolphins. Mais déjà, s'ils arrivent à battre Miami, après faut voir dans quel contexte Buffalo joue les dernières semaines. Mais voilà, ils sont pas morts pour autant. Mais je veux dire, s'ils loupent les playoffs pour un ou deux matchs, vu le niveau défensif qu'ont encore démontré les pattes cette saison Et vu comment l'attaque a clairement été laissée de côté, notamment dans le domaine aérien, avec toutes ces histoires d'atermoiements au niveau du poste de quarterback, avec tous ces appels de jeu extrêmement problématiques, cette ligne offensive qui a été sur courant alternatif aussi, enfin, franchement, ça va laisser quand même un petit arrière-goût amer malgré tout.
Après, en même temps, vaut mieux qu'il les manque, les playoffs, non? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir une équipe construite comme ça et qui joue comme ça en playoffs?
Ben, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est là où on voit la patte John Robinson à Tennessee, c'est que, à mon sens, New England, ils sont plus ou moins montés comme les Titans, hein. Si tu regardes bien, la seule différence, c'est que ta star offensive au poste de quarterback plutôt qu'au poste de running back, mais l'identité et ton système offensif est globalement le même.
Mais d'ailleurs, c'est un peu, c'est là où on voit peut-être ce qu'a apporté Brady, c'est-à-dire que les Patriots ont l'air d'être, je ne vais pas dire incapable de se diversifier, parce qu'il y a eu des fois où ils ont changé d'identité, ce n'est pas les mêmes équipes qui gagnent des titres sous Belichick, mais disons qu'ils ont l'air quand même de vouloir reproduire des grandes lignes de ce qu'ils font. Il y a des choses qui ont du mal à déroger, et tu le vois. Et donc là, alors, toute proportion gardée, ça va avoir l'air très méchant ce que je dis, mais Mac Jones, c'est un peu un Brady du pauvre, c'est-à-dire que c'est un peu le même profil, on voudrait que ce soit un super gestionnaire, etc., sauf que Brady transcende tout ce qui touche autour de lui. Et donc voilà, et donc si t'as pas cette touche-là, bah, t'as juste une attaque avec un quarterback moyen qui veut se baser sur du jeu au sol avec des coureurs no-name qui tournent les uns après les autres, et voilà, des receveurs un peu no-name qui défilent aussi, et une grande défense.
Bien sûr.
Mais donc au bout d'un moment, ça marche pas, quoi, si t'as pas un Brady.
Mais si tu parles là-dessus, moi par exemple, j'ai du mal à comprendre. En fait, on a presque cette impression, et je rebondis sans faire trop long là-dessus, sur cette histoire McDaniels-O'Brien, c'est un peu la même logique avec Brady. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire briller un autre quarterback derrière. Enfin, pas dans le sens où... pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure sur ce système offensif, pour moi, Mac Jones trouve qu'en tant que game manager, sur le papier, il fait le boulot. Voilà. Si son but, c'est d'essayer de limiter les pertes de balles par rapport à un running back, on est d'accord que tout n'a pas été parfait depuis son arrivée dans la Ligue. Mais je trouve qu'il fait quand même le boulot. Je pense, de ce que j'en vois, voilà, je pense qu'il répond quand même malgré tout aux critères recherchés par le coaching staff, à savoir limiter au maximum les pertes de balles. Mais c'est pareil, si on prend le système qui a longtemps été couronné de succès, pardon, du côté des Pats, il est où ce receveur de poche que tu arrives à sortir pour justement être capable d'apporter une solution intermédiaire? Les Patriots l'année dernière, ils avaient un pack sans d'oseille pendant la free agency, ils se sont focalisés sur les grands receveurs, sur Nelson Agholor et sur des tight ends. Et aujourd'hui, on comprend pas la logique. Parce que offensivement, en tout cas, au niveau des cibles qui ont été signées, il y a quasiment personne qui performe comme il faut. Ou en tout cas, de manière régulière. Donc voilà. Et c'est là aussi, c'est dans ce sens-là où je dis que du coup, quand Brady part, on a plus envie de donner les clés au successeur. C'est que, le système offensif, j'ai l'impression que, oui, ok, le jeu au sol, il est toujours là. Mais c'est quoi les armes que t'avais avant? Et que, alors, on est d'accord, des Julian Edelman, ça pousse pas sur les arbres. Mais je veux dire, combien de slot receivers on voit chaque année qui sortent à la draft, etc., et qui pourraient être exploités par les Pats? Et aujourd'hui, on préfère encore une fois se concentrer sur des grands receveurs, des Kendrick Bourne. C'est pas juger leur prestation,
hein. Que tu veux dire.
Kendrick Bourne, Jacoby Myers, Taquan Thornton. C'est pas vraiment cette logique-là, je trouve, qui est mise en avant. Donc, on préfère apporter de la taille, peut-être pour compenser, apporter des espèces de soupapes de sécurité au quarterback anciennement rookie et désormais deuxième année. Mais tu perds aussi ton identité offensive, l'identité qui a fait ton succès au fur et à mesure des années, notamment quand Brady était là.
Donc on disait Dolphins-Bills pour terminer la saison avec une attaque qui peine, ça va pas être facile, et on l'a dit, ils sont hors des playoffs au moment où on enregistre. Les Bengals, eux, sont en playoffs, ils sont qualifiés pour les playoffs. Il leur reste deux matchs pour gagner la division, puisqu'ils sont encore pas assurés de la FC Nord. Le point noir quand même de ce match, Greg, il fallait en dire un mot, c'est la fin de saison de Lyle Collins.
Oui.
Qui est un excellent tackle. Est-ce que c'est le genre de petit truc, entre guillemets, parce que c'est pas du tout petit, qui pourrait revenir, on va dire, tu vois, fin janvier, on dira « Ah !» C'est là qu'il aura vraiment qu'un Lyle Collins.
C'est sûr que malheureusement, c'est quelque chose qu'on est amené, sur lequel on est amené à être un petit peu anxieux, on va dire, du côté de Cincinnati, dans le sens où, l'année dernière, leur principal problème, et ce qui leur a coûté le Super Bowl, à mon sens, c'est leur ligne offensive, en tout cas leur pass pro. Et on a vu qu'au début de saison, c'était encore extrêmement compliqué, ça l'a été beaucoup moins en deuxième partie de campagne. et que là, malheureusement, oui, ça peut être quelque chose de problématique, sachant qu'ils terminent donc la saison avec Buffalo et Baltimore à la maison, si je me trompe pas. Donc, bon, encore une fois, je l'ai dit, il faudra voir comment ça se passe, mais ouais, s'ils tombent sur deux défenses capables de mettre un petit peu la pression sur Joe Burrow et d'enrayer leur attaque, on pourrait passer d'une équipe potentiellement, ça peut aller dans tous les sens du côté de Cincinnati quand on voit la dynamique, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien finir premier de la conférence américaine, comme ils peuvent très bien se retrouver en wildcard avec des Ravens qui leur passeraient devant sur la dernière semaine. Donc oui, c'est tout sauf négligeable, en effet, cette blessure de Lyle Collins. C'est le petit grain de sable, on va dire, dans ces bonnes nouvelles globales et dans cette bonne série. Mais ça peut déterminer très clairement leur positionnement en janvier et ce qui pourra s'en suivre par la suite en fonction de l'adversaire qu'ils rencontreront.
Eh bien, c'est comme ça qu'on termine ce débrief. Grégory, merci beaucoup de nous avoir suivis. On parle de tous les autres matchs de la semaine 16. Demain, ce sera avec Victor Roulier et Raphaël Masmejean. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci encore, Greg.
Toujours un plaisir. Merci à toi.
Très bonne séance de rameur à toi.
On va essayer.
Et à très bientôt. Ciao, ciao.
Et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliatelle au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocasse Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.